Laudetur Jesus Christus.
Comment reconstruire le monde après l'expérience de la pandémie de Covid-19? C'est la réflexion proposée par le pape François. Il a adressé ce matin un message aux participants du 16e forum sur la sécurité globale qui vient de débuter à Bratislava en Slovaquie, invitant à voir, juger et agir. Éclairage juste après les titres. Relancer le partenariat avec les Européens après une période tendue sous le mandat de Donald Trump, c'est l'objectif du président américain. Joe Biden participe aujourd'hui à Bruxelles à un sommet avec les dirigeants de l'Union Européenne. Il souhaite notamment renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de la lutte contre la Covid-19. Au sommet également, l'inquiétude en Chine après un problème dans la centrale nucléaire de Taishan dans le sud du pays. Pékin assure que les niveaux de radioactivité n'ont rien de préoccupant. Et puis nous nous rendrons en Inde où le nombre de contaminations au coronavirus est en train de diminuer. 70 000 cas, c'est le plus bas niveau depuis mars dernier. Les autorités ont ainsi levé les restrictions dans certains États.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, le 16e forum sur la sécurité globale s'ouvre aujourd'hui à Bratislava en Slovaquie. Il réunit plusieurs chefs d'État, ministres et personnalités européennes autour du thème « Mieux reconstruire le monde ». Invité à s'exprimer, le pape François est intervenu ce matin dans un message vidéo. Il y invite les participants à envisager la reconstruction du monde post-pandémie à l'aune du triptyque « Voir, juger et agir ». Les explications de Manuela Affigi.
Pour construire le futur, il faut tout d'abord entreprendre une analyse sérieuse et honnête du passé qui inclut la reconnaissance de carences systémiques et des erreurs commises, car celui qui tombe doit se confronter aux causes de sa chute, autrement il n'en tire aucune leçon. Le pape s'adonne donc à dresser un constat du monde d'avant et il n'est guère édifiant. François dit en effet voir un monde fourvoyé par un sentiment illusoire de sécurité, un modèle économique à bout de souffle, grevé par les inégalités et les appétits consuméristes qui détruisent la création et ont généré une dette écologique à charge des pauvres et des générations futures. Après l'observation, vient le jugement. En cela, la crise offre de nouvelles perspectives. Elle permet ainsi de transformer le temps d'épreuve en temps de choix. Arrive ensuite l'action qui requiert un modèle de développement qui place au centre chaque homme et tout l'homme et nécessite de surcroît une vision d'ensemble et d'espérance et implique une vraie conversion. Et François de conclure son message en souhaitant aux participants de ce forum de contribuer par leur débat à l'élaboration d'un modèle de reprise capable de générer des solutions plus inclusives et durables, un modèle de développement qui se fonde sur la coexistence pacifique entre les peuples et sur l'harmonie avec la création.
Manuela Affigi, un éclairage à retrouver à l'adresse vaticannews.va. La pandémie de coronavirus, elle fait partie des thèmes au cœur de la rencontre entre les dirigeants de l'Union européenne et le président américain. Joe Biden poursuit ce mardi sa longue séquence diplomatique en Europe après le sommet avec le Royaume-Uni, le G7 et l'OTAN, place à l'Union européenne. Les acteurs se connaissent maintenant pour s'être rencontrés pour la plupart depuis la fin de la semaine dernière, mais les sujets traités seront bien sûr différents. Ils seront essentiellement économiques. Les précisions de Xavier Sartre.
Énième preuve que la page Trump est tournée, la trêve conclue en mars dans le long contentieux entre Boeing et Airbus sera prolongée de 5 ans, le temps de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Ce sera la principale initiative de ce sommet entre Washington et Bruxelles. L'économie sera aussi le point de départ d'échanges concernant la Chine. Les États-Unis sont sur une ligne dure, les Européens ne disent pas non, mais doivent aussi ménager leurs intérêts avec Pékin malgré leurs propres contentieux. Idem concernant la Russie. Washington et Bruxelles sont prêts à répondre fermement à la répétition de comportements négatifs et d'activités nocives de Moscou, selon un projet de déclaration commune. Pour Joe Biden, présenter un front commun à la veille de sa rencontre avec le président russe est primordial. Lié à l'économie, la technologie, Américains et Européens veulent des nouvelles technologies pour ne pas laisser la main aux autocraties, selon la formule de la Maison-Blanche. Un conseil commun du commerce et de la technologie sera ainsi créé. Enfin, face à la pandémie de Covid, une équipe conjointe sera mise sur pied pour augmenter la production mondiale de vaccins. Objectif, vacciner les 2/3 de la population mondiale d'ici fin 2022.
Xavier Sartre. C'est à Bruxelles que les dirigeants de la Serbie et du Kosovo reprennent aujourd'hui leurs discussions sous l'égide de l'UE. Le nouveau Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, s'est engagé à adopter une nouvelle approche dans les pourparlers avec le président serbe Aleksandar Vučić. Il s'agit de mettre un terme à un conflit territorial épineux. Les relations entre les deux voisins des Balkans restent compliquées plus de 20 ans après leur séparation par la guerre. Nous savons que ce dialogue ne sera pas facile, mais ce processus et un engagement sincère des deux parties sont nécessaires dans l'intérêt des populations, a déclaré en préambule le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le Royaume-Uni a conclu aujourd'hui un accord commercial post-Brexit avec l'Australie. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a salué un accord de libre-échange offrant des possibilités fantastiques pour les entreprises britanniques et les consommateurs. Il permettra à tous les biens britanniques d'entrer en Australie sans droit de douane. Les éleveurs britanniques restent, eux, inquiets, craignant de perdre en compétitivité face à la viande de bœuf et d'agneau australienne. Le Royaume-Uni a déjà obtenu des accords avec l'UE, son premier partenaire commercial, la Norvège et le Japon. Pékin et le groupe français EDF se veulent rassurants après l'annonce d'un problème interne à un réacteur de la centrale nucléaire EPR de Taishan dans le sud de la Chine. Les autorités chinoises ont annoncé ce matin qu'il n'y avait rien d'anormal dans la radioactivité autour du site. EDF, actionnaire de la centrale, a pour sa part fait état de rejets atmosphériques de gaz rares dans le respect des limites réglementaires. Les précisions de Philippe Dova.
Il n'y a rien d'anormal dans la radioactivité autour de la centrale nucléaire et la sécurité est garantie, a ainsi déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères devant la presse aujourd'hui. La révélation de l'incident par la chaîne américaine CNN a mis en lumière un problème connu depuis plusieurs semaines. EDF, actionnaire à 30% de la centrale chinoise, aux côtés du groupe d'État CGN, avait été informé en octobre de la présence de gaz rare dans les circuits primaires du premier réacteur après la dégradation de la gaine de quelques crayons contenant des pastilles d'uranium. Dégradation pouvant entraîner la contamination de l'eau destinée au refroidissement du réacteur. C'est la hausse des concentrations de gaz constatées samedi et l'incertitude sur les origines et les conséquences environnementales qui inquiètent. Pour EDF, les EPR de Taishan sont la vitrine du nucléaire français et les problèmes rencontrés tombent très mal pour le groupe qui espère de nouveaux chantiers en France et dans le monde. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour la Chine, pays détenteur du troisième parc nucléaire mondial, mais pays où la catastrophe de Fukushima en 2011 est dans tous les esprits. L'incident de Taishan va obliger Pékin à jouer la carte de la transparence pour rassurer sa population, à commencer par les habitants des régions de Hong Kong, Macao et Canton, limitrophes de Taishan. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
C'est la fin d'une longue affaire qui envenimait les relations entre l'Inde et l'Italie. Les poursuites judiciaires contre deux militaires italiens accusés d'avoir tué des pêcheurs indiens en 2012 ont été abandonnées. Rome l'a annoncé ce matin. Il y a deux mois, New Delhi s'était déclaré disposé à accepter des réparations financières représentant plus d'un million d'euros au profit des familles des victimes. La deuxième vague de coronavirus qui frappe l'Inde continue de refluer. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est tombé à 70 000, son plus bas niveau depuis mars dernier. Et même si le pays dénombre toujours près de 3 000 morts par jour à cause de la lenteur du recensement, les autorités commencent à lever les restrictions dans certains états. Le Taj Mahal va par exemple rouvrir demain. À New Delhi, Emmanuel Derville.
La capitale indienne a retrouvé depuis quelques jours un semblant de normalité. La circulation automobile a repris, les magasins ont rouvert et le chef du gouvernement local a levé la plupart des restrictions. Les restaurants peuvent recevoir de la clientèle avec une jauge de 50%. La plupart des régions restent prudentes. À Bombay, les centres commerciaux et les cinémas ont pu rouvrir, mais avec une jauge. Si l'Inde en a fini avec la deuxième vague, nombreux sont ceux qui s'attendent à une troisième vague dans les prochains mois. Une crainte qui s'explique par la lenteur de la vaccination à cause de la pénurie de doses. Le nombre d'injections, qui plafonnait à 2 millions par jour il y a quelques semaines, est remonté hier pour frôler la barre des 4 millions. La campagne a commencé au mois de janvier et seulement 14% de la population a reçu au moins une injection. La vaccination n'est pas toujours gratuite. Certains hôpitaux qui arrivent à se procurer des doses les revendent parfois à plus de 10 euros. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Journée sous tension pour le nouveau gouvernement israélien. Une marche de militants juifs d'extrême droite doit se tenir dans l'après-midi dans le secteur de Jérusalem-Est. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient a appelé toutes les parties à éviter les provocations. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous, ce sera à 18h en compagnie de Xavier Sartre. Très bel après-midi, au revoir.